Il est tout pile 8h sur France Inter, soyez les bienvenus. C'est l'heure du journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, Carles Puigdemont à la veille d'une arrestation. Un mandat d'arrêt européen a été émis par la justice espagnole à l'encontre du président catalan destitué actuellement réfugié en Belgique. Un an jour pour jour après l'entrée en vigueur de la COP21, c'est demain que s'ouvrira à Bonn la COP23, une ouverture sans Donald Trump, actuellement en tournée en Asie. Dans l'actualité également, les risques de pénurie de foie gras sur les étalages de Noël. C'est la conséquence des épisodes de grippe aviaire qui ont perturbé les élevages. Une exposition à ne pas manquer en ce moment dans la capitale, celle des lieux saints partagés au musée de l'histoire de l'immigration. Et puis à la fin de cette édition, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard. Au sommaire notamment, le footballeur Patrice Evra, mis à pied par son club, l'OM, après son coup de pied justement à un supporter. Mais avant de développer tous ces titres, je vous propose d'écouter un témoignage poignant, celui de cet octogénaire, Hubert Rougier, condamné hier soir à 5 ans de prison avec sursis pour avoir étouffé en 2015 sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Au travers de ce témoignage et au-delà de l'aspect judiciaire de cet acte répréhensible, c'est toute la détresse d'un aidant face à cette maladie qui touche près d'1 million de personnes en France. La détresse d'un homme qui, ayant refusé toute aide extérieure puisque sa femme ne le souhaitait pas, s'occupait de son épouse 24 heures sur 24 jusqu'à cette issue fatale. Hubert Rougier qui dit regretter son acte et se déclare soulagé de ne pas aller en prison au micro de Véronique Pueyo de France Bleu Isère.
J'échappe à la prison, je suis très très content. Je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible et elle est faite. Je suis suivi par une psychologue, elle m'a dit vous êtes vivant, il faut vivre. Je regrette que ma femme, la façon qu'elle est partie, j'aurais voulu qu'elle meure de sa propre mort. Je souhaite à tout le monde ne pas vivre une pareille chose. C'est terrible. Il faut se faire aider. Moi, je croyais ne pas craquer. Mais comme c'est une maladie qui évolue dans le mal, on arrive à craquer.
Épuisé, dépressif, Hubert Rougier a donc fini par tuer son épouse, dont il s'occupait seul depuis 3 ans. La Cour a choisi de suivre le réquisitoire de l'avocat général en se prononçant pour une peine avec sursis, la possibilité pour l'octogénaire Véronique Pueyo de tourner en quelque sorte une page difficile.
Il va désormais pouvoir tourner la page la plus douloureuse de son existence et repartir dans la vie pour quelques années, espère-t-il, avec sa nouvelle compagne. Pourtant, l'avocat général, dans son réquisitoire, n'avait pas été tendre avec lui. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas un permis de tuer, avait-il lancé à l'accusé. Certains voudraient peut-être voir dans ce dossier un fait de société, mais ce n'est pas la réalité de cette affaire, avait martelé le magistrat. Et pendant plus d'une heure, il allait s'attacher à démontrer qu'Hubert Rougier n'avait pas voulu euthanasier sa femme pour mettre fin à ses souffrances, mais qu'il n'en pouvait plus, lui, de s'en occuper 24 heures sur 24. C'est lui-même qui s'est enfermé dans ce huis clos morbide. Et l'avocat général revient sur le passage à l'acte de l'octogénaire. Il a étouffé sa femme dans son sommeil. Quand elle s'est mise à crier, au lieu de s'arrêter, il s'est dit « j'ai commencé, je vais jusqu'au bout. Hier soir, le vieil homme a quitté le palais de justice à petits pas, accompagné de son fils unique, Jean-Philippe. Ce dernier était parti civil, mais il avait demandé une peine symbolique pour la mémoire de sa mère. Justice a été rendue, a-t-il conclu.
Véronique Pueyo de France Bleu Isère.
Dans l'actualité également, Serge, ce mandat d'arrêt européen lancé hier dans la soirée par la justice espagnole contre le président catalan destitué, Carles Puigdemont.
Carles Puigdemont qui, dans un entretien à la radio-télévision belge, a expliqué que la justice espagnole était trop politisée et qu'il préférait s'en remettre à la justice belge. Le leader indépendantiste catalan qui s'est par ailleurs dit disposé à être candidat aux élections régionales anticipées du 21 décembre prochain. Bruxelles, Quentin Dickinson.
Pour l'essentiel, l'ex-président de la région catalane aura cherché à tirer parti de l'incarcération de ses anciens collègues en insistant à de nombreuses reprises sur le fait que leur sort constitue la démonstration de la brutalité du gouvernement espagnol qui, selon lui, refuse toute forme de dialogue avec les sécessionnistes catalans. Sa présence en Belgique ne serait pas une fuite, mais bien un stratagème mûrement réfléchi de division des responsabilités entre ceux qui devaient rester au pays et ceux qui étaient appelés à prendre l'Europe et le monde à témoin de l'injustice de leur situation. Plus étonnant, M. Puigdemont explique que son départ permet d'éviter la guerre civile.
Je suis venu à Bruxelles, surtout aussi pour empêcher une situation de confrontation. Parce qu'il y avait beaucoup de monde disposé à maintenir la résistance, mais surtout, on savait que l'État espagnol se préparait par une nouvelle vague de violence. Parce que j'aurais pu rester là et demander de la résistance. Je ne l'ai pas fait, et je ne veux pas le faire, parce que jamais, jamais, la violence a été une seule option. pour nous.
M. Puigdemont dit ne pas avoir l'intention de demander l'asile politique en Belgique. Prudent, il soutient qu'il n'a rencontré ici aucun responsable politique belge ni européen et qu'il ne recherche pas ce type de contact. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles.
Un dossier catalan que vous pouvez retrouver sur notre site franceinter.fr. Il y a tout juste un an, le 4 novembre 2016, très précisément, entrait en vigueur l'accord de la COP21 engageant 195 pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le but de stabiliser le réchauffement climatique. Un changement climatique qualifié depuis par Donald Trump de canular chinois visant à affaiblir l'économie américaine. Une prise de position mise à mal dans un rapport rédigé par plus de 50 scientifiques américains. Dans cette évaluation publiée tous les 4 ans à la demande du Congrès, ces experts réaffirment en effet que le changement climatique est bien réel, qu'il résulte probablement des activités humaines et qu'il affecte déjà la vie des Américains. Donald Trump, qui vient d'entamer hier en Asie une tournée qui le mènera notamment au Japon, en Chine justement, mais aussi en Corée du Sud.
En France, après le beurre, c'est le foie gras qui pourrait bien manquer sur les étals de Noël à cause des épisodes de grippe aviaire qui ont durement touché les élevages.
Vous l'avez peut-être constaté si vous êtes amateur, le foie gras fait son retour dans les rayons des magasins, cela en raison de la reprise des abattages de canards cet été. Mais un retour timide donc, et la production en vue des fêtes de fin d'année, qui représentent quand même 75% du chiffre d'affaires des producteurs, cette production risque bien d'être insuffisante pour faire face à la demande, avec pour principale conséquence, Philippe Lefebvre, une hausse des prix.
Sans aller jusqu'à parler de pénurie, il y aura fatalement cette année moins de foie gras sur les tables. La production et l'élevage des canards n'ayant repris dans le sud-ouest de la France qu'au début de l'été, lorsque se sont achevées les périodes de vide sanitaire durant lesquelles les éleveurs ne pouvaient placer aucun canard dans les bâtiments d'élevage. Situation qui a bien évidemment pesé sur la production et qui aura des répercussions en termes de prix, selon Vincent Gisselin, le directeur général de Maison Montfort, le numéro 1 du foie gras en France.
On considère que la production française était aux alentours de 38 millions de canards élevés en 2016. Sur cette année, on estime que la production sera autour de 22-23 millions de canards. Le foie gras sera encore un peu plus cher cette année, de l'ordre, je pense, de 15 à 20%. Bien évidemment, cela tient en compte de toutes les difficultés qu'ont traversées notamment les éleveurs et les producteurs de foie gras aujourd'hui. Donc effectivement, oui, il y aura un impact sur les prix de quelques dizaines de centimes d'euros, on va dire par part, pour le consommateur.
Autre conséquence de cette baisse de production, pour maintenir les revenus des producteurs, certains industriels pourraient limiter la fabrication de foie gras en marque de distributeur aux couleurs des enseignes de la distribution, produits généralement moins chers que les foie gras des grandes marques nationales.
Un reportage de Philippe Lefebvre. Une exposition passionnante pour refermer votre journal, Serge. Une exposition consacrée à des lieux saints partagés en Europe et autour de la Méditerranée.
Une exposition montre en effet des monastères ou des églises où chrétiens et musulmans prient ensemble, mais aussi des synagogues où se côtoient juifs et musulmans. Une exposition qui a ouvert ses portes au musée de l'histoire de l'immigration à Paris, par le palais de la Porte Dorée. Exposition dans laquelle nous entraîne Isabelle Pasqui.
À la synagogue de la Griba, à Djarba, juifs et musulmans prient et font la fête ensemble, mais sous haute protection depuis l'attentat contre cette synagogue. Dans ces temps de crispation religieuse, ça semble tenir du miracle. Et pourtant, au monastère Saint-Georges, au large d'Istanbul, chrétiens et musulmans participent à la même procession. Comme en Bretagne, le pèlerinage islamo-chrétien des sept dormants d'Éphèse. Et dans plusieurs lieux saints, c'est la Vierge Marie, qui rassemble chrétiens et musulmans. Manuel Pénicaud, commissaire de l'exposition.
Marie constitue peut-être une passerelle interreligieuse. C'est la seule femme nommément citée dans le Coran, qui l'est plus souvent d'ailleurs dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament, parce qu'elle est la mère de Jésus. Jésus est le Messie qui reviendra à la fin des temps. Et Marie est aussi présentée comme un modèle de perfection. Et donc de nombreux sanctuaires chrétiens à l'échelle de la Méditerranée dédiés à Marie sont visités spontanément par de nombreux musulmans. C'est le cas à Alger, à Notre-Dame d'Afrique, ou aussi à Notre-Dame de Santa Cruz, à Oran, où aujourd'hui encore, la plupart des visites d'ailleurs sont le fait des musulmanes.
Le dialogue religieux, une utopie que réalisent pourtant ces lieux saints partagés, loin de Notre-Dame qui fait tomber les murs, icône peinte sur le mur de séparation entre Jérusalem et Bethléem.
Lieux saints partagés, c'est le thème et le titre de cette exposition qui se tient jusqu'au 21 janvier au musée de l'histoire de l'immigration, palais de la Porte Dorée à Paris. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.